Bonsoir. On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Le président de la République sur France Info fustige l'attitude des enseignants correcteurs du bac qui se sont mis en grève. En saluant la bonne réaction du ministre qui a fait attribuer aux élèves des notes issues du contrôle continu. Pour le SNES, syndicat majoritaire dans l'éducation, c'est ce qui s'appelle mettre de l'huile sur le feu. Un Grenelle des violences conjugales à la rentrée et un projet de loi pour l'automne. Les associations se félicitent de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement en réponse à leurs revendications, en regrettant pour certaines qu'on repousse encore la décision de plusieurs mois. Encore un navire humanitaire qui force le passage à Lampedusa, un autre qui doit se détourner vers Malte. L'association France Terre d'Asile dénonce l'indifférence et l'inertie des gouvernements européens qui se cachent derrière leur opinion publique. Dans ce journal également, la reprise annoncée du programme nucléaire iranien, la défaite annoncée d'Alexis Tsipras en Grèce. Le parti conservateur est largement en tête des sondages sortis des urnes. Et puis la Deutsche Bank qui supprime 18 000 emplois. En sport, les Américaines sont bien les meilleures footballeuses du monde. Elles conservent leur titre en battant les Néerlandaises 2-0. L'équipe Jumbo, du maillot jaune, Mike Tennyson remporte la deuxième étape du Tour de France, un contre-la-montre par équipe. Et puis les Françaises en finale de l'Euro de basket tout à l'heure contre l'Espagne, le journal des sports. Dans un instant, c'est avec Thomas Coignac. Enfin, la météo, de la chaleur toujours demain et des orages dans le sud-ouest. On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Le président de la République a donc réagi ce soir à la grève des correcteurs du bac. C'était sur France Info, en marge de la finale de la Coupe du Monde féminine de football. Une interview exclusive et exclusivement consacrée au sport, à l'exception de cette question sur le bac et ses enseignants qui ont refusé de saisir les notes et pour certains de rendre les copies. Oui, au droit de grève, en résumé de ce qu'a dit Emmanuel Macron, mais pas pendant le bac. Il était interrogé par Jacques Vendroux et Jérôme Cadet.
Le ministre a été très clair dès le début, il a appelé tout le monde au devoir, il a été très clair sur les règles du jeu et ses notes provisoires et les règles après correction des copies. Donc je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Moi je respecte chacune et chacun, je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits, tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Et notre devoir à tous, c'est que quand il y a un examen qui est attendu avec angoisse et qui vient sanctionner la fin des études secondaires et l'entrée dans la vie universitaire ou la suite, notre devoir à tous, c'est d'être au rendez-vous et c'est de faire ce qu'on doit faire.
Voilà, 99% des enseignants ont le sens du devoir, a dit aussi Emmanuel Macron sur France Info. C'est le plus beau métier et je ne veux pas le laisser salir, écorner. Le président de la République qui soutient donc sans réserve son ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, dont les syndicats contestent la réforme du lycée et du bac. C'est la raison de cette grève qui d'ailleurs n'est peut-être pas terminée, comme l'explique la présidente du SNES, Frédéric Rollet, au téléphone de Sonia Princey.
Au-delà de l'usage abusif de l'expression « prendre un otage », le président de la République ne s'interroge jamais sur les causes qui ont amené des enseignants qui ont travaillé toute l'année avec leurs élèves, qui aiment leur métier, qui aiment leurs élèves, à retenir des notes. À chaque fois que le président ou le ministre s'exprime, ça durcit les tensions entre les enseignants et leurs ministres, et y compris les collègues qui n'étaient pas forcément ou grévistes ou engagés dans le mouvement de rétention des notes du baccalauréat, sont extrêmement exaspérés par ces propos-là, parce que parler des devoirs, par exemple, des enseignants, ils savent bien, comme tout fonctionnaire, qu'ils ont des droits et des devoirs. Et d'ailleurs, un de leurs premiers devoirs, c'est de garantir l'égalité de traitement entre tous les élèves. Ce qui n'est pas le cas dans les consignes qu'a donné Jean-Michel Blanquer, et qui ne sera certainement pas le cas avec la réforme du lycée et du baccalauréat telle qu'elle est prévue.
Voilà, la secrétaire générale du SNES qui fait allusion à de nombreux recours qui pourraient être engagés dans les jours qui viennent par les familles des lycéens recalés au bac, recours visant à dénoncer justement l'inéquité du système adopté par le gouvernement. Sur les sujets spécifiquement sportifs, un mot sur Total qui renonce à participer au financement des JO de Paris sous la pression d'Anne Hidalgo. Ce n'est pas une bonne idée pour le chef de l'État, pour qui il est plus facile d'écarter de l'argent privé en donnant des leçons de morale que d'en trouver, en ajoutant « Total doit s'engager dans une politique de transition énergétique et mettre de l'argent pour financer des jeux verts ». Quant à la lutte contre le racisme et l'homophobie dans le sport, faut-il arrêter les matchs comme l'avait fait un arbitre récemment ? Oui, a répondu le président de la République. C'est la responsabilité des clubs d'entrer dans l'art d'être supporteurs. Je vous ai compris, ou plutôt comprise, après le message du président de la République aux femmes victimes de violences conjugales, ça c'était hier, message adressé sur Facebook, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a donc annoncé ce dimanche l'organisation à la rentrée d'un Grenelle des violences conjugales, en l'occurrence un Grenelle qui serait déménagé à Matignon, où l'ensemble des acteurs concernés seront invités à lancer la mobilisation générale contre ce fléau qui a tué depuis le 1er janvier 74 femmes et même 75 depuis la mort hier d'une jeune femme à son domicile des Yvelines, tuée à son domicile des Yvelines par son petit ami. On peut faire plus et mieux, a confirmé également à midi la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, en annonçant un projet de loi pour l'automne, dont acte pour les associations globalement satisfaites d'avoir été entendues, mais prudentes pour la suite, et qui regrettent pour certaines d'entre elles qu'après tout ce temps perdu, on repousse encore les décisions. C'est le cas notamment de Sophie Tissier du collectif Nous Toutes.
Aujourd'hui, ils s'affolent et d'un coup, ils font des grandes annonces communicantes en disant « on va faire un Grenelle, ça y est, un Grenelle, ça fait très sérieux ». Mais le Grenelle, on n'en a pas besoin. On a des propositions très concrètes hein, pendant ce temps-là, dans la société d'aujourd'hui. Des femmes continuent de mourir, d'être terrorisées aussi. Et ce sont aussi des enfants qui sont les dommages collatéraux de tout ça, qui sont aussi des victimes. Des milliers d'enfants dont les vies sont brisées. Vous imaginez le traumatisme d'un enfant qui voit sa mère se faire violenter, voire se faire tuer sous ses yeux. Parce qu'en plus de ça, on sait que l'été est propice, c'est des périodes avec la chaleur, les départs en vacances, les rythmes sont chamboulés, il y a l'alcool également. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu pendant la période estivale. Donc effectivement, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, on sait qu'il va y avoir encore des femmes qui vont être tuées. Et c'est pas acceptable. Il faut mettre en place des choses maintenant.
Le Grenelle des violences conjugales a été fixé au 3 septembre, le 3-9-19, comme le numéro de téléphone dédié aux femmes victimes, le 39-19. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, sera demain matin l'invité du 7-9 de France Inter avec Frédéric Mettezo.
Le journal de 19h sur France Inter.
Ça devient une habitude, triste habitude, un navire humanitaire en errance en Méditerranée. Le navire d'une ONG allemande, la Lan Kurdi, 65 migrants à bord, a finalement pris la direction de Malte ce matin après avoir renoncé à forcer le passage à Lampedusa, le port italien de Lampedusa, où un autre bâtiment d'une autre ONG a finalement accosté la nuit dernière avant d'être saisi par la justice italienne. Les ONG sont des chacals, a sobrement commenté le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Tandis qu'à Malte, où se dirige la Lan Kurdi, il pourra bien accoster à condition que les migrants soient aussitôt transférés dans différents pays de l'Union. Bref, c'est une situation surréaliste et révoltante, ce qui se passe actuellement en Méditerranée pour Pierre Henry, le directeur général de l'association France Terre d'Asile. Il est au téléphone de Cécilia Arbonat.
Ce qui se passe là, en ce début juillet, est un moment de honte absolue. En fait, en Méditerranée, vous savez, c'est une guerre à l'altérité, à l'humanité qui se mène en ce moment et dans l'indifférence générale. Les sauveteurs de la mer sont des héros et les politiques européens qui sont aux commandes sont des pleutres qui, pour la plupart, se cachent derrière leur opinion publique. C'est le pal des focus. Chacun, en réalité, sait ce qu'il faut faire. Ouvrir des lieux de débarquement, des ports sûrs de débarquement sur la rive nord de la Méditerranée. Par exemple, à Marseille, je ne comprends toujours pas pourquoi mon pays, la France, ne fait pas cela. À quoi cela sert-il de faire de la politique ? À chanter en chœur avec les juilletistes au bord des plages, en faisant tourner les serviettes, nous on s'en fout, nous on s'en fout.
Voilà un point de vue que ne contredirait pas le pape François qui appelle à l'organisation de corridors humanitaires pour les migrants en Libye. Il réagissait ce matin au récent bombardement d'un centre de détention de migrants dans ce pays. En Iran, retenez-moi, où je fais un malheur, un peu plus d'un an après la rupture de l'accord sur le nucléaire par les Américains, Téhéran a donc annoncé la reprise du processus d'enrichissement de l'uranium, décision aussitôt dénoncée par les capitales occidentales, Paris, Londres et Berlin. Le président Macron et son homologue Rouhani se sont d'ailleurs donné jusqu'au 15 juillet pour relancer le dialogue. Mais pour les Iraniens, le temps presse, Claude Guibal. Les sanctions imposées par Washington commencent à peser lourd sur l'économie du pays. L'annonce de ce matin, en somme, c'est une façon de faire pression sur les Européens.
Pour justifier sa décision, l'Iran ne cesse de le marteler. Depuis 2015, date de la signature de l'accord, l'Iran a tenu tous ses engagements et n'a rien obtenu en retour. Sinon, le retrait unilatéral des Américains et la passivité des Européens qui avaient promis de mettre en place un mécanisme de contournement qui n'est toujours pas effectif. Or, c'est bien l'étranglement économique qui pousse aujourd'hui l'Iran à montrer les muscles. L'Iran qui ne peut plus vendre son pétrole ni faire le moindre échange financier. Pour Hassan Rouhani, le président iranien qui avait pourtant arraché et négocié cet accord en 2015 malgré l'hostilité des conservateurs, c'est une question de survie. Il avait promis aux Iraniens que cet accord les libérerait des sanctions qui maintenaient l'Iran dans son asphyxie économique. Il avait aussi promis que cela sortirait enfin le pays de son isolement de paria. En vain, d'autant plus dur à avaler pour l'opinion publique iranienne que pendant cette même période, la Corée du Nord, en jouant, elle, la surenchère nucléaire, est devenue, à l'inverse, un partenaire de dialogue pour les États-Unis.
Claude Guibal, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Hong Kong, à nouveau dans l'un des quartiers les plus touristiques de l'ancienne colonie britannique. Les manifestants voulaient expliquer aux touristes chinois les raisons de leur opposition au projet de loi sur les extraditions, projet qui pourrait faciliter le transfert des suspects vers la Chine continentale, un projet pour l'instant suspendu, mais pas abandonné. En Grèce, la chronique d'une défaite annoncée pour le Premier ministre Alexis Tsipras aux législatives anticipées ce dimanche. Tous les sondages avaient prédit la victoire du Parti conservateur et c'est apparemment le cas. Après l'espoir qu'avait fait naître l'arrivée au pouvoir du parti Syriza et de son jeune leader, les désillusions ont été grandes. Marie-Pierre Véraud, vous êtes au quartier général des conservateurs. Les européennes avaient été très éloquentes et la chute de Tsipras pourrait donc être encore plus rude ce soir.
Et oui, en effet, dans ce quartier général de Nouvelle Démocratie, dans la banlieue sud d'Athènes, eh bien, c'est l'ambiance des grands jours, puisque cette victoire annoncée de M. Mitsotakis est encore plus écrasante que prévu. Entre 38 et 41% des voix, contre une fourchette comprise entre 27 et 30% pour Alexis Tsipras, c'est un véritable camouflet pour le chef du gouvernement. Kyriakos Mitsotakis apparaît en mesure de former seul un gouvernement, puisque, selon toute vraisemblance, il disposera de la majorité absolue des sièges à la voulie. Le Parlement grec, entre 155 et 167 députés sur 300 lui sont promis, puisque vous savez, le système électoral grec prévoit d'attribuer une prime au vainqueur de 50 sièges, et même si l'on prend la fourchette basse, eh bien Mitsotakis a d'ores et déjà doublé le nombre de députés actuels de Nouvelle Démocratie. C'est bien le grand vainqueur. Il est d'ailleurs arrivé ici tout à l'heure au bras de son épouse, affichant un sourire éclatant. C'est l'alternance en Grèce, la fin de la parenthèse Tsipras. Mitsotakis devrait être en mesure de former un gouvernement dès ce mardi. C'est bien le retour d'un Mitsotakis au siège de Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, qui va donc être chef du gouvernement grec dès ce mardi, sans doute 29 ans après son père, qui avait gouverné entre 1990 et 1993.
Marie-Pierre Véraud à Athènes avec Eric Audra. En Allemagne, un plan social sans précédent dans l'histoire des banques. La Deutsche Bank annonce la suppression de 18 000 emplois d'ici 2022. Pour la première banque allemande qui veut réduire ses coûts de 6 milliards d'euros, c'est le prix à payer pour retrouver l'équilibre. Pascal Thibault, un remède de cheval qu'on présente outre-Rhin comme le plan de la dernière chance.
Le courage du désespoir. Le commentaire du quotidien des milieux d'affaires Frankfurter Allgemeine salue la décision de la Deutsche Bank, mais souligne aussi les difficultés du numéro 1 allemand. Les effectifs vont être réduits d'un cinquième d'ici à 2022, du jamais vu. Cela va faire plonger la banque dans le rouge cette année, mais la Deutsche Bank espère ensuite voir le bout du tunnel. L'institut met fin à 30 années durant lesquelles la branche investissement avait longtemps eu le vent en poupe avant de coûter beaucoup d'argent, en partie à cause de nombreux scandales aux États-Unis. Deutsche Bank va se recentrer sur des métiers plus stables, la banque de détail et les activités pour les entreprises, avant tout en Europe. Autre mesure pour ce plan de la dernière chance, la création d'une bad bank, une filiale où les actifs jugés risqués seront parqués pour améliorer le bilan de la maison mère. Il y a deux mois, une fusion financièrement peu convaincante avec la concurrente Commerzbank voulue par le gouvernement avait échoué. Ce matin, le ministre de l'économie, Peter Altmaier, déclarait dans une interview comprendre le plan de Deutsche Bank qui doit lui permettre de rester en première division. Berlin, Pascal Thibault, RFI pour France Inter.
Dans un instant, la météo et toujours la chaleur au programme avec des orages dans le quart sud-ouest. On imagine qu'en ce début d'été, la consommation d'eau est maximale. 10 000 bouteilles en plastique sont vendues à cette époque en France chaque minute, dont très peu, 20%, sont recyclées. D'où cette expérience lancée à Arles, où plus de 100 000 touristes sont attendus cet été, notamment pour le festival de la photo. Les commerçants ont été mis à contribution en offrant aux passants gratuitement de recharger leurs gourdes ou leurs gobelets au robinet, Olivier Martoc.
Ici, vous avez l'église Sainte-Rochelle.
Dans les rues, les guides font leur travail, les touristes écoutent et déambulent sous une chaleur de plomb. La plupart ont une bouteille d'eau à la main. C'est cette habitude de consommation que Stéphanie Dick, à l'initiative du challenge Zéro bouteille plastique à Arles, entend changer.
Ce qu'on demande aux commerçants, c'est de bien vouloir servir de l'eau du réseau à tous ceux qui se pointent avec leur gourde ou avec un gobelet. Soit ils servent de l'eau du robinet qui est donc gratuite, soit ils installent une fontaine qui va la filtrer, qui va lui donner la température qu'on veut. Et dans ce cas-là, ils ont vraiment une autre qualité qu'ils peuvent librement vendre ou offrir, comme ils le souhaitent.
Et ça marche parce que même en servant de l'eau gratuitement, les commerçants s'y retrouvent. Xavier Donadio tient une épicerie fine sur la place de la mairie.
J'espère que effectivement ça va aussi m'attirer une clientèle. C'est aussi dans un but commercial, bien sûr. On essaye de lier les deux. Et puis ça permet de commencer tout doucement à mettre un pied à l'étrier pour tout ce qui est écologique.
Pour les anxieux qui auraient peur de manquer, le site du challenge Zéro Bouteille Plastique à Arles indique les points d'eau accessibles, y compris les fontaines, situées dans l'agglomération. Si l'expérience est un succès, elle sera étendue à d'autres villes. Arles, Olivier Martoc, France Inter.
Voilà, une recherche des points d'eau qui va continuer demain. On va y venir. D'abord, les routes. Journée chargée dans la vallée du Rhône aujourd'hui, Alice Cachaner.
Oui, exactement. La journée a été chargée, mais là, en ce moment, ça va beaucoup mieux. Il y a encore des ralentissements entre Valence et Montélimar, mais clairement, rien à voir avec les bouchons de cet après-midi. En ce moment, il y a aussi des encombrements sur l'A9 en allant d'Orange à Narbonne à cause d'un accident qui a été dégagé. Vous roulez aussi en accordéon sur l'A8 entre Aix-en-Provence et Nice. Et puis, du côté de la région parisienne, il y a les retours de week-end, donc pas mal de monde sur la 13, l'autoroute de Normandie. La circulation est dense en direction de Paris, notamment au niveau du péage de Mantes-la-Jolie, comptait 10 km de ralentissement.
Alice Cachaner au PC Mobilité de Radio France, le temps.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Jean-Michel Golinski.
Si demain le Massif central et les régions de l'Est retrouvent un temps plus calme avec un faible risque d'ondées et parfois un éclair, c'est dans le quart sud-ouest et en particulier près des Pyrénées que l'ambiance sera marquée par les orages avec des pluies soutenues sur la chaîne, en particulier sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Sur le reste du pays, le vent de secteur nord sera assez désagréable, notamment de la frontière belge au centre et près de l'océan. Du vent également sur la Corse, mais orienté à l'ouest, le tout sous un ciel souvent bien dégagé, sauf le matin au nord de la Seine. La température maximale la plus basse sera de 20 degrés à Lille, la plus élevée de 36 à Nîmes. Il fera plus généralement 20 à 27 degrés dans le nord-est et dans la moitié nord du pays, 29 à 31 sur les régions centrales et 32 à 35 du sud-ouest au bassin méditerranéen.
19h17, on passe au sport. Avec vous Thomas Coignac, bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous.
Qui c'est les plus fortes? Évidemment c'est les Américaines.
Et oui, les États-Unis championnes du monde de football. Elles ont battu les Pays-Bas en finale de la Coupe du Monde féminine, 2-0. La finale vient de se terminer à Lyon, devant plus de 50 000 spectateurs et devant Cédric Guillou. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Thomas.
Bon Cédric, on en est à la remise du trophée. Les Américaines ont remporté leur 4e Coupe du Monde en 8 éditions. Elles étaient bien les plus fortes ce soir.
Ah, elles étaient bien les plus fortes, comme depuis de très nombreuses années. 4e sacre mondial, effectivement, pour les États-Unis après 91, après 99, 2015. Il faudra donc ajouter 2019 au palmarès des Américaines qui ont remporté ce match 2-0 ce soir face aux Pays-Bas avec un match qui s'est débloqué à l'heure de jeu avec l'ouverture du score de l'une des stars de l'équipe américaine, Megan Rapinoe, qui a marqué sur pénalty à la suite d'une faute de Van der Gracht dans la surface de réparation sur Alex Morgan. Et Stéphanie Frappard, la Française, qui était l'arbitre de cette partie, eh bien, a dû avoir recours à l'assistance vidéo pour donner ce pénalty. Ça a donc permis à Rapinoe de marquer son 6e but en 5 matchs. Et les Américaines, eh bien, ont fait le break à la 70e minute de jeu grâce à une action individuelle de Rose Level. Les USA qui ont eu l'occasion d'alourdir le score, mais sans parvenir à le faire. Mais elles sont championnes du monde. Et à l'instant même, voilà, elles brandissent le trophée de champion du monde au public de Lyon.
Et vous le disiez Cédric, c'est Megan Rapinoe qui a débloqué la situation, l'attaquante américaine qui a été vraiment la star de cette équipe, la guide sur et aussi en dehors du terrain pendant cette compétition.
Oui, ça a été la meilleure américaine hein, sur le terrain, la plus régulière, la plus décisive. En tout cas, elle a pris ses responsabilités sur la pelouse. Et puis, vous le disiez fort justement, elle a pris ses responsabilités en dehors du terrain. Megan Rapinoe qui avait eu des échanges hein, durant la compétition, notamment avec Donald Trump, le président américain, qui souhaite inviter les victorieuses de cette Coupe du Monde, les Américaines, à la Maison Blanche dans les prochaines semaines. Et d'ores et déjà, Megan Rapinoe, eh bien, a déclaré qu'elle n'irait pas à la Maison Blanche, qu'elle trouve le président américain égoïste et raciste. Voilà quelques tweets qu'elle a publiés récemment. Et Megan Rapinoe, c'est aussi celle qui a fait avancer les choses avec la Fédération américaine pour l'égalité des primes entre les hommes et les femmes au niveau du soccer, comme on l'appelle là-bas aux États-Unis. Megan Rapinoe qui a d'ailleurs reçu le soulier d'or tout à l'heure, Thomas, symbolisant la meilleure buteuse pour cette Coupe du Monde 2019.
Cédric Guillou, c'est un peu tôt pour faire les bilans, mais le Stade de Lyon était encore bien rempli ce soir. Vous avez assisté à beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde et on a vraiment le sentiment que le succès populaire était au rendez-vous.
Ah oui, c'était un vrai succès tout au long de cette compétition qui avait démarré le 7 juin dernier au Parc des Princes où on avait battu un record d'affluence pour un match pour l'équipe de France. Là, aujourd'hui, on a tout simplement eu le record d'affluence, sans doute plus de 58 000 personnes parce que le stade, il était à guichet fermé ce soir à Lyon avec des Américaines qui étaient en nombre bien évidemment dans les tribunes. Mais c'est vrai que globalement, ça aurait été un vrai succès populaire cette Coupe du Monde féminine avec ce chiffre. 87% des stades auront été rempli durant cette Coupe du Monde avec donc le pic ce soir au Stade de Lyon pour cette finale. Les Américaines qui ont gagné d'ailleurs la bataille des tribunes mais également donc la bataille du terrain. Les Américaines qui restent, Thomas, les reines du football mondial féminin.
Merci Cédric, vous nous avez fait vivre cette Coupe du Monde pour Radio France. Deux mots de football toujours chez les hommes pour vous dire que c'est cette nuit la finale de la Copa América entre le Brésil qui joue à domicile et le Pérou. Coup d'envoi à 22h. Et puis suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. En ce moment même, un partout entre Madagascar et la République démocratique du Congo. On joue la deuxième période. À 21h, l'Algérie affronte la Guinée.
On passe au Tour de France, la deuxième étape cet après-midi, un contre-la-montre par équipe autour de Bruxelles.
Oui, et le maillot jaune ne quitte pas les épaules du Néerlandais Mike Tennyson. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir Thomas.
Le maillot jaune qui ne quitte pas les épaules de Mike Tennyson parce que c'est son équipe, la Jumbo Visma, qui a remporté cette étape, un contre-la-montre par équipe de 27 km 600.
Vainqueur surprise de la première étape et désormais maître des horloges avec son équipe emmenée par l'ancien champion du monde du chrono Tony Martin avec ses coéquipiers. Mike Tennyson a donc conforté sa première place au classement général en se payant le luxe de l'emporter avec 20 secondes d'avance sur les Britanniques d'Ineos qui se voyaient déjà au sommet de l'affiche. De quoi rendre ivre de bonheur toute l'équipe, le maillot jaune en tête, Mike Tennyson.
Oui, je l'aime bien ce maillot, encore un, même si ce n'était que pour 30 minutes aujourd'hui. Ce serait super de le garder encore un peu. Demain, je vais pouvoir en profiter plus longtemps. Le rêve continue, j'ai eu du mal à dormir la nuit dernière, j'espère que ce sera mieux ce soir, mais j'en profite.
Les Britanniques n'ont pas été les seuls déçus du jour. Les Belges de Deceuninck Quick-Step avec Julien Alaphilippe ont dû se contenter de la troisième place à 21 secondes. De quoi hypothéquer les chances du Français de porter le maillot jaune en cas de succès à Épernay demain. Julien Alaphilippe.
Ouais, je me sentais bien, ça allait. C'est pas vraiment ma spécialité, mais j'ai une équipe très forte. Et comme j'ai dit, on était très motivés. On avait des bons rouleurs comme Kasper Asgreen, qui a pu se faire plaisir en tirant des grands relais. Il faut prendre les choses comme elles viennent. Hein. C'est comme ça et on va voir. On peut pas débriefer comme ça à chaud, mais en tout cas, on a des maximum.
Julien Alaphilippe pointe ce soir à 31 secondes du leader, le maillot jaune Mike Tennyson, Thomas.
Et dans la course au classement final, Thibaut Pinot est le Français qui s'en est le mieux tiré.
Oui, huitième du chrono avec son équipe à seulement 12 secondes de Thomas et Bernal, malgré les chutes de Gaudu et Ladanius dans le dernier kilomètre. Une très très belle performance pour le Franc-Comtois.
Bah, le sentiment il est bon, c'est ce qu'on voulait. On savait très bien où on se situait, nous. On avait une équipe homogène, donc on sentait de toute façon qu'on était dans la mur. Pour vous, c'était inespéré, mais pour nous, on savait très bien qu'on était capable de réaliser une belle perte. Donc nous, on n'est pas surpris. C'est sûr que tout le monde nous voyait perdre presque une minute, je crois. Donc nous, on savait qu'on était capable de faire bien.
La mise au point de Thibaut Pinot qui a limité les écarts, tout comme Nibali, les frères Yates, le Danois Fuglsang qui croisent tous à une vingtaine de secondes de Geraint Thomas. Il a fait beaucoup mieux Thibaut Pinot que le Colombien Quintana, l'Italien Aru, l'Espagnol Landa pointé à 50 secondes des coureurs d'Ineos et beaucoup mieux aussi que son compatriote Romain Bardet, 19e sur 22 dans ce chrono par équipe. L'Auvergnat a lâché 59 secondes au vainqueur sortant du tour. Rien de décevant pourtant si l'on écoute Vincent Lavenu, manager d'AG2R La Mondiale.
Non, mais nous, on est plutôt satisfaits parce qu'on avait dit maximum un débord d'une 30. Je me rappelle l'un de vos collègues dont je tairai le nom m'avait dit « Je suis étonné, une 30, vous avez pas, en gros, vous n'allez pas y arriver. On prend moins d'une minute, donc c'est plutôt une bonne chose, à savoir qu'il nous manque des rouleurs, hein, notamment comme Sylvain Dillier et Pierre Latour. On est dans cette source de progrès que l'on attend depuis un certain nombre d'années. Il y a encore un petit peu de boulot, mais on est plutôt satisfaits. »
Cette deuxième étape en Belgique a été marquée par une ferveur populaire impressionnante tout au long des 27 kilomètres du parcours, avec des spectateurs qui ont apprécié cet exercice si particulier du contre-la-montre à l'image d'Alain.
C'est chouette, hein, c'est vraiment bien et on s'est mis au bon endroit. On les voit bien, venir calmement récupérer un peu, quoi. Faut vraiment relax et tout. Hein. Parce qu'hier, c'est ce que je disais aux dames, là. C'est un peu cruel. Hein. Ils ont tous fait le même parcours, il n'y a qu'un seul qui intéresse les journalistes. Dans chaque équipe, vous voyez qu'ils plongent tous sur un seul, quoi. Et les autres, c'est dur, hein, quand même. Hein.
Et demain, le Tour de France quitte la Belgique au départ de Binche, en direction d'Épernay, 215 km, avec un final accidenté favorable au puncher.
C'était Fabrice Rigobert en direct de Bruxelles.
Et c'est dur, hein, quand même, le vélo. Allez, dans l'actualité sportive de ce dimanche également, le basket. Thomas, l'équipe de France féminine en finale du championnat d'Europe tout à l'heure.
Oui, ça commence à 20h30 à Belgrade, en Serbie. Les Bleus affrontent l'Espagne. L'équipe de France est une habituée des finales européennes. Elle a disputé les trois dernières. 2013, défaite face à l'Espagne. 2015, défaite face à la Serbie. Et 2017, nouvelle défaite contre l'Espagne. C'est peu dire que les Espagnols sont favorites. On écoute le président de la Fédération française, Jean-Pierre Suita.
C'est une nation de basket, une nation fière, tout ça, qui joue très très bien au basket. On aime bien de temps en temps un jeune et puis un senior conjurer le sort et puis faire en sorte de déverser la tendance. Après, on a des armes aussi, donc c'est vrai que au départ, on n'avait pas trop misé sur ce groupe parce qu'on a eu quand même des joueuses de cadre qui étaient blessées, qui ont déclaré forfait. On a voulu faire venir des jeunes qui sont la génération de 2024. Hein. Et au départ, bon, on n'avait peut-être pas trop de repères, mais il y a une très très belle ambiance dans cette équipe. Elle nous surprend tous les jours, donc pourquoi pas, c'est ça le sport aussi. Peut-être qu'on aura d'ailleurs le public serbe avec nous ce soir, hein, puisque l'Espagne qui a battu la... éliminer la Serbie, donc on verra, il y a plein de choses, on le sent qu'il va se passer quelque chose, mais on va gagner ce soir.
Et pour vérifier tout ça, début du match dans une heure à Belgrade.
On part à Londres maintenant, tournoi de tennis de Wimbledon, jour de repos ce dimanche.
Oui, c'est une tradition à Wimbledon, on ne joue pas le premier dimanche du tournoi avant d'attaquer la deuxième semaine et les huitièmes de finale à partir de demain. Il y aura deux Français à suivre et c'est certainement Benoît Paire qui a les meilleures chances. Il sera opposé à l'Espagnol Roberto Bautista Agut parce que le deuxième Français, Hugo Humbert, 21 ans, affronte le tenant du titre et numéro 1 mondial Novak Djokovic. Demain, également en huitièmes de finale, Roger Federer joue contre l'Italien Berrettini et après deux matchs bien contrôlés, le Suisse a battu Lucas Pouille au troisième tour. Il est en confiance dans sa route vers un neuvième titre à Wimbledon.
Pour moi, honnêtement, ce match contre Pouille, pour moi, c'était un peu un match de référence, de voir vraiment où j'en étais avec mon jeu, parce que je sais que Pouille, il peut bien jouer, surtout meilleur de 5-7. Il est assez solide physiquement et aussi mentalement. Il a prouvé en Australie, il a montré aussi surtout à l'US Open il y a quelques années en arrière. Il peut faire des sacrés matchs. Les deux premiers, je savais que j'allais les contrôler. Celui-là, pas vraiment. J'ai bien joué, bien servi. Je restais calme dans les moments clés. Et si je peux continuer à ce niveau-là, je pense que ce serait une bonne chose. Ouais. Berrettini, il est vraiment en pleine forme parce qu'il a gagné Stuttgart sur gazon, demi-finale à Halle. Alors là, je l'ai vu jouer un peu, j'ai vu qu'il a une sacrée première balle, agressif du fond de court. Il est jeune, il y croit, ça vient assez naturel pour lui ce gazon. Alors je pense qu'il est très serein mentalement en ce moment et ça se le rend dangereux parce que la confiance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter au supermarché. Tu le mérites, c'est pour ça qu'il faut que je fasse un bon match pour le battre.
Et demain sur les cours, il y aura aussi Rafael Nadal qui joue contre le Portugais Souza. Dans le tableau féminin, plus de Françaises. La favorite, c'est la numéro 1 mondiale, l'Australienne Ashleigh Barty, qui sera sur le court demain contre l'Américaine Risqueux. Mais la sensation, c'est une autre Américaine, Cori Gauff, 15 ans, née en 2004, qui défiera l'ancienne numéro 1 mondiale, Simona Halep.
Allez, ça faisait plus d'un an et demi qu'il n'était pas monté sur un tatami. Teddy Riner fait son retour.
Oui, depuis son 10e titre de champion du monde en novembre 2017. Il a fait une pause, il s'est ressourcé, il s'est consacré à sa famille, c'est reparti. Il combat en ce moment même au Canada, à Montréal. Un grand prix qualificatif pour les Jeux Olympiques 2020. Il a déjà gagné 2 combats. La phase finale, ce sera vers 1h du matin, heure française. Teddy Riner qui explique à quoi lui sert cette compétition.
C'est un tournoi où il va y avoir pas mal de monde. Il va falloir se confronter, il va falloir aller chercher cette opposition qui est là et qui est présente. C'est pas le tournoi de l'année, c'est juste aller chercher ces gars-là, chercher les premiers points pour le quota et puis prendre le maximum d'informations sur mon état sur le tapis, comment je me situe par rapport à la concurrence et puis voilà, c'est se donner. Hein. C'est se donner, prendre du plaisir aussi. C'est important de se confronter pour savoir s'il reste des choses à bosser, si on est sur le bon chemin pour cette médaille d'or ou pas.
Oui, Teddy Riner. Et après Montréal, il décidera s'il participe ou non au championnat du monde à Tokyo. Rappelons que ça fait 9 ans que personne ne l'a battu.
La moto, GP pour terminer.
Oui. Nouvelle victoire cet après-midi pour l'Espagnol Marc Marquez. Il s'est imposé en Allemagne. Et puis, pour voir des Français sur la plus haute marche du podium, il faut regarder le triathlon. L'équipe de France mixte a conservé cet après-midi son titre de championne d'Europe. Ça se passait à Hambourg.
C'était le journal des sports de Thomas Coignac.